9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Le plaisir d'accueillir deux femmes ce dimanche matin. Fatima Besnassi-Lankou, bonjour.
Bonjour Samia.
Bonjour Ouria Deloum Bentayeb, bonjour à vous.
Bonjour Samia.
Pour vous, c'est une première, Ouria, mais pour Fatima Besnassi-Lankou, le plaisir de la revoir ce dimanche matin. Nous nous sommes vus depuis à plusieurs reprises à propos de ces ouvrages, et ce matin à propos d'un ouvrage que vous avez publié ensemble. Il s'agit de « Ils ont dit non à l'abandon des harkis, désobéir pour sauver ». C'est le titre de cet ouvrage qui est paru aux éditions Loubatière et qui est préfacé par Jacques Frémaux et en postface, une postface de l'historien Benoît Falaise. On va parler de ce livre-là. Vous présentez d'abord, toutes les deux, Fatima Besnassi-Lankou. Vous êtes historienne, membre du conseil scientifique du mémorial du camp de Rivesaltes. On vous doit donc de nombreux ouvrages, particulièrement liés à la question des harkis. Votre premier ouvrage, et vous étiez venu à Beurre FM le présenter, il s'appelait « Filles de harkis », c'était en 2003. Et très vite, votre démarche personnelle a été dépassée par l'historienne que vous êtes aujourd'hui, et vous vous interrogez toujours sur l'histoire des harkis, et surtout de cette mémoire de ceux installés en France après l'indépendance, et qui ont vécu dans les camps du sud de la France. 2022, ça fait 60 ans déjà que l'Algérie est indépendante, il est temps de regarder ces groupes mémoriels, comme disent souvent les historiens, mais regarder les groupes mémoriels, c'est surtout en connaître leur histoire, et c'est de ça qu'il est question dans le livre que vous faites ensemble toutes les deux. On va parler en fin d'émission du second livre aussi que vous me proposez, Fatima Besnassi-Lankou, qui s'appelle « Réfugiés et détenus de la guerre d'Algérie », qui est un livre de photographie, de mémoire photographique et historique, qui est paru aux éditions de l'Atelier, mais c'est une autre histoire. C'est une histoire singulière, puisqu'il s'agit des photos de la Croix-Rouge pendant la guerre d'Algérie. On y reviendra. Vous présentez Ouria Deloum Bentayeb, vous êtes née en Algérie, mais vous aussi, Fatima Besnassi-Lankou, et vous avez quitté toutes les deux l'Algérie en 62 pour venir en France. Vous avez toutes les deux eu ce parcours aussi de fille de harkis et d'avoir vécu dans ces camps du sud de la France dont je parlais. Ouria Deloum, vous étiez enseignante et vous êtes aujourd'hui dans l'écriture, puisque j'aurai l'occasion de vous retrouver pour votre roman qui s'appelle Liberté, tel est son nom, et c'est un livre qui vient de paraître aux éditions du Croquant. Mais ça, c'est pour une autre fois. On s'arrête donc pour parler de « Ils ont dit non à l'abandon des harkis, désobéir pour sauver ». Je me tourne vers vous, Fatima Besnassi-Lankou, peut-être en premier. Quand je dis qu'il faut regarder les mémoires, les mémoires de... Quand je dis communauté harkis, je crois que ça vous dérange, hein, j'ai le souvenir de ça. Pas parler de communauté harkis, mais du groupe.
Oui, du groupe, oui. Mmh. Oui, du groupe harkis. Mais bon, je ne me fâche pas non plus quand on dit communauté. Donc, c'est vrai que c'est commode, hein, donc vous pouvez l'utiliser, Samia, sans problème.
Alors, quand on parle de ce livre, Désobéir pour sauver, qui est dans le sous-titre de votre livre, c'est justement des hommes et des femmes qui se sont levés contre ce qu'ont subi comme violence les harkis, qui sont restés en Algérie, mais qui après avaient besoin d'être protégés face aux violences. Qui étaient-ils, ces sauveurs? Vous les appelez sauveurs d'ailleurs.
Sauveteurs.
Pardon?
On les appelle sauveteurs.
Sauveteurs, pardonnez-moi, alors, sauveteurs.
Parfois, bah, c'est des sauveurs aussi. Parfois, certains groupes, disons harkis, dans certaines associations, ils utilisent le mot juste, hein, les justes. On ne l'a pas repris à notre compte parce que les justes, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire.
Hein. Absolument. Voilà. Donc, ce sont effectivement des hommes et quelquefois des femmes. Les hommes, ce sont des soldats qui avaient fait la guerre d'Algérie et qui ont été en contact donc avec les auxiliaires de l'armée française, hein, qu'on appelle maintenant harkis, mais bon, le terme est plus complexe que ça, mais voilà, disons, je vais utiliser le mot harkis, parce qu'il y a d'autres catégories d'auxiliaires.
Les supplétifs, on disait aussi.
Oui, on dit supplétifs ou auxiliaires de l'armée française. Et c'est vrai que eux, utilise souvent le mot auxiliaire, hein, donc c'est vrai qu'il est, il est dans notre tête à toutes les deux. Donc, ce sont des hommes qui, à la fin de la guerre d'Algérie, ont vu effectivement, étaient témoins de leur abandon en Algérie, alors que, dans certains cas, on leur avait dit que quoi qu'il arrive, on les protégerait, et puis s'ils voulaient venir en France, ils viendraient en France, etc. Et en fait, la réalité a été tout autre. Donc après la signature des accords d'Évian, d'ailleurs, le jour même, il y a eu le début des exactions. Donc, il y a eu quelques hommes qui ont été tués, notamment dans l'Oranie, à Saint-Denis-du-Sigue. Et il y a un des officiers qui est dans le livre, qui s'appelle François Meyer. Il a été, il a pu prendre des photos. Il a été témoin de ces exactions. Et ça a été un des premiers à dire moi, je ne repartirai pas en France sans ramener les harkis qui étaient sous mon commandement et leurs familles, bien évidemment, les familles qui voulaient partir. Ils ne les obligeaient pas du tout, hein. Donc c'était en tant que volontaire. Et puis, cet homme et d'autres officiers principalement, mais il y avait aussi de simples soldats, ils se sont... élevés, en fait, contre la décision de Paris de les laisser sur place. Puis finalement, en fait, à Paris, quand ils se sont rendus compte que ces hommes, ces officiers commençaient à protester, le gouvernement a mis en place un plan de rapatriement. Donc il existe, mais il était extrêmement restrictif. C'était 5000 hommes. Il fallait qu'ils justifient qu'ils étaient menacés. Il fallait que ça se fasse en à peu près 2 mois. Donc tout ça a été des freins pour pas qu'ils viennent en France. Et à ce moment-là, il y a des hommes, parfois aidés par leurs épouses, qui ont désobéi. Et ils les ont ramenés, parfois de manière clandestine.
Clandestine, oui.
Voilà. Alors il y a des filières un peu plus, disons, plus légales. Mais il y a eu plusieurs filières, et c'est ce que nous racontons dans ce livre. Et juin, les premiers arrivés, c'était en juin, les premiers arrivés avec François Meyer, qui était le lieutenant François Meyer. Ils sont arrivés le 15 juin, me semble-t-il, en France. Et les derniers... arrivés avec les militaires, sont arrivés en avril 1964, parce que c'était au moment où les militaires français ont quitté
finissaient de quitter l'Algérie.
Qui finissaient, absolument. D'ailleurs, dans les accords d'Évian, ils devaient rester jusqu'en 65. Mais Pierre Messmer, qui était ministre des armées, il avait une telle pression, justement, sur ses familles, qu'il a dit lui-même, hein, allez, l'armée dégage, comme ça, je n'aurai plus cette pression de ces familles, donc, abandonnées en Algérie. Et, avec tout ça, en 2 ans, il y a eu près de 43 000 hommes, femmes et enfants qui sont arrivés en France et qui ont transité par des camps.
Ouria de Lomben Taïeb, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Fatima Besnassi Lankou, votre participation dans ce co-travail dans ce livre, il y a donc deux femmes, je crois, qui sont sauveteurs. Et tous ces hommes, comment s'est opérée d'abord votre rencontre et ensuite l'enquête qui a conduit à ce livre et à avoir interpellé tous ces hommes?
Alors, juste pour revenir sur notre rencontre, elle a eu lieu il y a une quinzaine d'années, justement lors d'un colloque qui portait sur l'enseignement de l'histoire d'Algérie et... comment transmettre l'histoire des harkis dans l'enseignement aux enseignants. Donc c'est à ce moment-là que nous avons eu le plaisir d'être présentés. Et de là est
par
né
Benoît
notre
Falaise.
Par Benoît Falaise, justement, qui est notre postfacier. Et de là, notre amitié.
Et ce travail ensemble pour ce livre.
indéfectible. Et donc, lorsque Fatima m'a proposé cette coécriture, donc évidemment, Fatima est la caution historique. Et ça a été un immense plaisir pour moi de faire toutes ces recherches, de faire cette... pour moi, ça a été comme la rencontre de ces soldats. C'est une facette que je ne connaissais pas. Et ce qui a été très intéressant, ça a été justement d'ouvrir une nouvelle porte dans cette... comment dirais-je, connaissance mémorielle. Donc, on entre par ces personnages qui ont... Pour certains ont écrit, pour certains se sont exprimés, ont témoigné, mais pour d'autres, ça a été la première fois. Hein. Je donnerai seulement l'exemple de Alain Jaspard. Il dit que ça a été la première fois pour lui
de parler, de raconter
cette expérience-là.
Vous allez nous décrire quelques personnes qui sont dans le livre, parce que c'est la sensibilité et l'importance de votre livre que vous avez eu l'une et l'autre de donner la parole à ces hommes et à ces femmes. On vous retrouve dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Fatima Besnassilankou et Ouria de Lourm Ben Taïeb, et nous parlons de Ils ont dit non à l'abandon des harkis, désobéir pour sauver. Ce livre vient de paraître aux éditions Loubatière.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
C'est Voix au chapitre et je rappelle que je reçois ce dimanche matin Fatima Besnassilankou et Ouria de Lourm Ben Taïeb. Elles ont publié ensemble, Ils ont dit non à l'abandon des harkis, désobéir pour sauver, c'est le sous-titre et il est important. Et nous parlions avec Ouria de Lourm Ben Taïeb des personnes qui sont interrogées dans votre livre et qui sont importantes de leur histoire, dont une justement qui pour la première fois témoignait. Comment vous les avez rencontrées d'abord? Vous les avez retrouvées peut-être?
Alors certains oui, la plupart c'est Fatima Besnassilankou qui les avait déjà interviewées pour d'autres ouvrages, pour des ouvrages précédents, et donc ça a été l'occasion pour nous de les rappeler. Et leur proposer de réécrire un témoignage qui va porter justement sur le sauvetage. Alors, juste avant de continuer sur la présentation des différentes personnes, je voudrais juste revenir sur la terminologie choisie, les sauveteurs. Ce terme est parti d'une interview que avait donnée à l'époque où il était vivant Yvan Durand, où il a parlé d'un gigantesque sauvetage. Voilà. Et ce qui est absolument fidèle à la réalité, c'était un immense sauvetage, et ce sauvetage-là nous a donné le terme de sauveteur. Donc, pour revenir à Alain Jaspard, qui était appelé, mais avant d'être appelé, il avait déjà fait quelques petits boulots, dirait-on, dans le domaine du cinéma, puisque ses parents étaient également dans le domaine du cinéma. Et donc, il a essayé de repousser au maximum son appel parce que déjà il avait une conscience politique, il avait déjà sa carte CGT en poche, et pour lui cette guerre déjà était inutile et en tout cas absurde. Malgré tout, il a dû y aller comme des milliers de jeunes de son âge. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a été absolument à la fois ébloui par le paysage d'Algérie, mais il a été terrifié de voir la population misérable. Et donc c'était absolument à l'opposé de ce qu'il avait été colporté auparavant sur justement cette guerre, donc avec beaucoup d'Algérie française, etc. Mais lui, il n'était pas Algérie française, et ça l'a conforté absolument dans l'idée de
l'indépendance.
Cette guerre était absurde et que l'indépendance était absolument nécessaire et inévitable. Voilà. Et donc, et toutes ces horreurs qu'il a vues a fait que il n'en a pas parlé. Et il a fallu, il a attendu 60 ans pour pouvoir s'exprimer. C'est d'ailleurs sa fille qui l'a encouragé à s'exprimer sur la question. Voilà. Donc là, lui, c'est un personnage donc qui était vraiment de gauche, etc. Et nous nous sommes rendus compte a posteriori, hein, quand nous avons étudié un petit peu l'éventail de tous ces profils, nous nous sommes rendus compte que de la diversité de ces personnes, de la diversité tant dans leur parcours familial, leur origine sociale, leur conscience, la manière de penser, et donc on s'est rendu compte donc de cette diversité, de leurs croyances religieuses. Exemple, l'abbé Alain de la Morandée, voilà, qui est parti lui avec une idée religieuse donc bien acquise, hein, puisqu'il il était déjà
formation, voilà, à Rome.
Voilà, il était déjà à Rome. À l'autre extrême, nous avons Monsieur Lallemand, Yannick Lallemand, qui lui, il est issu d'une famille qui a même été activiste dans l'OAS. Donc entre les deux, nous avons des tas de personnes comme Vincent Zaragoza.
Descendant de républicains espagnols.
Voilà, un enfant de la Retirada. Nous avons également...
vous avez Madeleine Lepezeron.
Nous avons Madeleine Lepezeron, alors qui est effectivement un personnage féminin bien trempé. D'ailleurs, son histoire qui est expliquée nous montre que la guerre d'Algérie, évidemment, elle en avait entendu parler par son beau-père qui travaillait déjà en Algérie, et lorsque il est revenu, il lui a proposé effectivement d'être en contact avec des familles de pieds noirs qui souhaitaient envoyer leurs enfants avant de revenir eux-mêmes d'Algérie, de sorte que leurs enfants soient à l'abri et eux leur laisser le temps un petit peu de régler leurs affaires. Donc une fois qu'elle a fait ce travail un petit peu de connexion entre des familles en France pour accueillir ses enfants, une fois qu'elle avait fini ce travail, elle a compris l'importance de continuer à accueillir de façon décente d'abord les familles de pieds noirs et ensuite les familles de harkis. Donc ça a continué même au-delà, lorsque les familles étaient dans les camps, avec son ami qui est devenu son ami, mais en fait le directeur de l'antenne de la Croix-Rouge.
De la Croix-Rouge, elle a œuvré pendant de longues années. Exactement. À la Croix-Rouge d'ailleurs.
Et donc avec lui justement, ils ont œuvré pour aller... sortir des gens qui étaient au camp de Rivesaltes pour leur proposer en tout cas un hébergement décent et un travail décent, puisqu'à l'époque, justement, pour pouvoir sortir des camps, que ça soit de Rivesaltes
ou des autres camps, il fallait avoir un travail pour quitter le camp.
Un travail et un logement. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. L'autre travail qui était extrêmement important, que justement Madeleine Lepezeron explique, c'est le fait de faire revenir justement des gens qui étaient coincés, des harkis qui étaient coincés en Algérie.
Encore en Algérie.
Voilà. Et donc il a fallu qu'ils produisent des documents, des faux documents, des lettres d'employeurs, des fausses lettres d'employeurs, des quittances de loyer, etc., pour pouvoir
d'Algérie pour qu'ils arrivent en France. En tout cas, il y a de nombreux témoignages qui sont importants. Fatima Besnassi Lankou, je me tourne vers vous. C'est une histoire qui n'est pas connue du tout, ces histoires de sauveteurs en réalité.
Alors, c'est connu dans le milieu, hein. dans le milieu archi, disons, de France, parce que certains de ces hommes, en fait, sont restés en contact depuis 60 ans. Ils ne les ont jamais quittés. Comme donc, François Meyer, dont je parlais tout à l'heure, qui est décédé en juin de l'année dernière. Et jusqu'à son décès, il était en contact. D'ailleurs, il a eu un hommage aux Invalides, donc rendu par le ministre de la Défense. Et là, il y avait des associations de harkis. D'ailleurs, c'était très étonnant, tous les discours, que ce soit à la messe, parce que c'est un catholique, donc il y a eu à l'église des Invalides donc une messe pour lui. Et en fait, tous les discours étaient autour de l'histoire des harkis. On avait l'impression que c'était un colloque de harkis, ces obsèques qui étaient extrêmement émouvants, parce qu'il est resté à leur contact jusqu'au bout.
Comme vous dites, c'est connu dans votre milieu, mais l'importance de ce livre, et Benoît Falaise le souligne aussi dans sa postface de l'historien, c'est que ça soit connu vraiment de l'histoire en général, et pour tous, ça soit...
Bien sûr. Oui, donc j'allais dire dans la mémoire collective,
voilà.
Ils ont leur place à mon avis, c'est une histoire en plus complexe, parce que on peut s'imaginer, parce qu'il y a des idées reçues, ces hommes qui ont sauvé les harkis sont forcément pour l'Algérie française, etc., etc. Et en fait, c'est l'intérêt justement de ce livre, c'est de montrer que, en fait, non, c'est des gens qui, à un moment, ont dit non à quelque chose qui leur a semblé injuste, et puis, quelle que soit leur idéologie, c'est ce que Ouria a expliqué, et c'est important vraiment de le souligner. Je crois que la chose la plus importante, c'est de dire non. Effectivement, parmi ces hommes, il y a des hommes qui effectivement étaient pour l'Algérie française, voire certains sont allés est allé jusqu'à donc soutenir l'OAS, mais on a aussi un ancien communiste, quoi.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Ouria de Lombetaille?
Oui, je voulais justement rebondir sur ce que dit Fatima. Par exemple, l'abbé de la Morandée, il dit bien « je suis parti avec une idée de l'Algérie française ». Seulement, lorsqu'il est arrivé sur place et qu'il a vu l'état de misère dans lequel vivait la majorité de la population, puisque tous ces appelés, finalement, ils ont été appelés, non pas à Alger ou dans les grandes villes, mais dans l'arrière-pays. Et donc, c'est là qu'il dit toutes mes idées se sont fissurées. Et c'est là qu'il dit l'indépendance, de toute façon, était inévitable.
Et moi, je vais rajouter Vincent Zaragoza, donc un enfant de la Retirada. Et lui aussi, il a vu les camps de regroupement. Il a vu un camp de regroupement. Il dit, moi, ça m'a rappelé ma famille.
Absolument, c'est ce qui se passait pour la communauté espagnole.
Absolument.
Fatima Besnassi-Lancourt, Ouria de Lourdes-Bentayab sont les invités de ce Voix au chapitre. On les retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre rendez-vous. Je rappelle que nous parlons de... Ils ont dit non à l'abandon des harkis, désobéir pour sauver, c'est le sous-titre de leur ouvrage en commun. Et nous allons aborder un autre livre dans la dernière partie de notre rencontre.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous avec Voix au chapitre, poursuivons notre rendez-vous avec nos invités, particulièrement dans cette dernière partie, Fatima Besnassi-Lancourt, puisqu'il s'agit de l'ouvrage que vous venez de publier, Réfugiés et détenus de la guerre d'Algérie, mémoire photographique et historique, ça vient de paraître aux éditions de l'Atelier. Je rappelais en vous présentant au début de l'émission, Fatima Besnassi-Lancourt, que vous êtes aussi membre du conseil scientifique du mémorial du camp de Rivesaltes. Un mot sur ce camp de Rivesaltes.
Alors, le camp de Rivesaltes est un camp militaire qui a été construit pour les militaires, une base militaire tout simplement. Ce n'était pas pour y enfermer des gens. D'ailleurs, ça n'aurait pas pu être... Au départ, il était question d'y mettre aussi des chevaux. Et puis finalement, en fait, des spécialistes ont dit si on mettait des chevaux au camp de Rivesaltes, ils allaient mourir. Vous voyez ? Donc, donc là, on est au début du XXe siècle. Hein. Et puis, à la fin des années 30, lorsque les Espagnols, donc en 39-40, ont commencé à fuir l'Espagne, hein, fuir Franco.
Les républicains.
Les républicains espagnols, absolument. Donc, en traversant les Pyrénées, on les a mis dans des camps. Et on les a mis dans le camp de Rivesaltes. Et on y a mis également des juifs, donc étrangers. Et puis, on y a mis aussi des tziganes qu'on ramassait sur les chemins un peu partout, que les gendarmes, quand les gendarmes les arrêtaient, on les dirigeait également dans des camps. Donc, ces populations de la Seconde Guerre mondiale avaient été enfermées dans le camp de Rivesaltes, là où on ne pouvait pas mettre des chevaux parce qu'ils risquaient de mourir de froid ou de chaud en été.
Donc, et voilà un espace lourd d'histoire, hein, de ces communautés, de ces histoires qui y sont passées. Et aujourd'hui, il est tout autre, ce camp de Rivesaltes. C'est un camp que vous avez... qui a une autre histoire, comment il est animé ce
camp de Rivesaltes. Alors le camp, donc 20 ans après effectivement la Seconde Guerre mondiale, il a servi d'abord à y enfermer des militants FLN, hein. Il y en a, il me semble, 511, donc on est quasiment à la fin de la guerre, c'est tout de suite après la signature des accords d'Évian, donc on les a enfermés là avant de les envoyer en Algérie. Et puis, quelques mois après, sont arrivées les familles de harkis et on les a parqués là pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, ce camp est devenu, a été...
Le camp de Rivesaltes a été fermé comme d'autres camps de harkis, le camp de Bias ou le camp de l'Ardoise. Et il est devenu tout autre, il a une dimension historique, mémoriale importante.
Oui, disons, quelques années après, le conseil, la région donc, des Pyrénées-Orientales avait acheté une partie du camp, hein, parce qu'il est immense, je ne sais plus, enfin, peu importe le nombre d'hectares, mais plus de 600 hectares. Hein. Donc, ils en ont racheté 42 et un mémorial a été construit là. Et c'est un mémorial donc qui raconte trois types de guerres. Une guerre civile, la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, avec les Juifs, les Tziganes, et la guerre d'Algérie.
Dans ce centre, dans ce mémorial, il y a des expositions, il y a des initiatives. C'est un livre, là, le livre que j'ai là, Réfugiés détenus de la guerre d'Algérie. Il est fait avec, en collaboration avec un des responsables du camp, qui est préfacé par Denis Péchanski.
Oui, que vous avez reçu ici.
Qui est venu à Beur FM nous présenter le tout début, justement, du camp de Rivesaltes, je me souviens très bien.
Péchanski, c'est le président du conseil scientifique, hein, et c'est un spécialiste des camps de la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Voilà, donc effectivement, cet ouvrage, qui est principalement un ouvrage d'archives photographiques avec un contexte historique, a été un projet du mémorial, hein, qu'on m'a confié en fait. Et ensuite, donc, les éditions de l'atelier étaient intéressées par le projet. Et il a vu en quelques mois, d'ailleurs, ça a été assez rapide. Et donc le CICR qui a son siège en Suisse.
C'est le Comité international de la Croix-Rouge. On va rappeler ce que veut dire le CICR. Justement, dans votre livre, vous évoquez toute l'histoire du CICR dans le camp. Tout au début du livre, hein, dans l'introduction, c'est le début de la guerre de libération, 9 novembre 54. Il y a la violence qui commence à s'installer dans ce conflit, dans cette guerre. Et le CICR va être observateur, puis accompagner justement la population. Et vous racontez un peu tout cela tout au long du livre. On voit toute l'histoire de la participation, de l'engagement du CICR.
Absolument. Et vous avez raison de dire observateur, parce qu'on leur a dit vous observez, mais vous ne dénoncez rien. D'ailleurs, ouais.
Mais ça, c'était l'armée qui devait dire ça.
Non,
mais il y avait l'armée qui était toujours dans les camps.
Non, c'était Paris, hein.
Ah, c'était, oui.
Paris, c'est les gouvernements. Et encore maintenant, le CICR, quand il est dans un pays, il peut aider les gens qui ont besoin de leur aide, mais il n'y a jamais, on ne dénonce pas ce qui se passe.
Parce que c'est la neutralité. Ils sont supposés être dans la neutralité.
Et sinon, on les empêcherait. on les empêcherait de rentrer. Donc là, c'était le premier à autoriser le CICR à aller en Algérie. C'était, Samia, vous allez m'aider, il est dans l'introduction. Donc c'était le président du conseil de l'époque.
Mendès France ?
Oui, comment ?
Mendès France ?
Mendès France, merci Samia. Donc Mendès France, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ok, je vous autorise à y aller, mais vous ne vous intéressez pas aux raisons des arrestations. Vous vérifiez effectivement les conditions matérielles, est-ce que sanitaires, morales aussi. Et puis vérifier avec un médecin si ils ne sont pas violentés physiquement, etc. Donc voilà. Mais les raisons de leur arrestation ils ne devaient pas s'y intéresser. Voilà, ça a été une des raisons. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés d'abord dans les prisons où on détenait des militants réels ou supposés, hein, parce qu'au début de la guerre, on a arrêté énormément d'hommes. Donc, on les a mis dans les prisons. Donc, ils sont allés dans les prisons un petit peu partout sur les territoires algériens. Et au contact des prisonniers, les prisonniers leur ont dit, nous, on est là. Demandez à voir aussi des camps. Parce qu'il y a des camps un peu partout, mais ce n'est pas su. Donc, du grand public, et à ce moment-là, donc, les délégués du Comité international de la Croix-Rouge ont demandé à retourner en Algérie pour avoir de nouveau l'autorisation de retourner dans les prisons, mais en disant, écoutez, nous, les prisonniers, nous ont dit qu'il y a des camps d'internement, on veut les voir.
Et quand ils allaient dans les camps d'internement, il y avait des familles qui venaient voir les gens qui étaient internés, mais il y avait l'armée qui contrôlait aussi le CICR pour voir... de façon à ce qu'il n'y ait pas de vagues, qu'on...
Ah, ils étaient toujours accompagnés.
Ils étaient toujours accompagnés.
De toute façon, il y avait trois sortes de camps d'internement. Le premier qui a été créé, qui s'appelle CTT, Centre de Transit, a été créé par des militaires. Donc, parce que lorsqu'ils arrêtaient des hommes à la campagne ou en combattant, etc., ils avaient ces prisonniers, parfois ils ne savaient pas quoi en faire. Donc ils les détenaient dans des camps. Après, ils les remettaient soit aux mains de la justice ou pour arriver, si vous voulez, jusqu'à la phase emprisonnement, les mettre dans des prisons, disons, civiles ou militaires, peu importe. En tout cas, la phase des camps, c'était des militaires. Ensuite, il y a eu une deuxième catégorie de camps qui a été créée, et c'était, j'allais dire, des camps mixtes, c'est-à-dire c'était des camps créés par des autorités civiles, donc par des préfectures, hein, donc pratiquement toutes les préfectures sur le territoire algérien, il y avait ce qu'on appelait des camps d'hébergement. Et là, les préfets ont confié aux militaires la surveillance de ces camps. Les militaires n'étaient jamais très très loin. Après, donc le CICR, pour résumer un petit peu, ils ont visité des prisonniers, des internés, mais ensuite, ils sont allés au Maroc et en Tunisie, où des Algériens avaient fui les violences. Donc les frontaliers étaient partis se réfugier auprès de Bourguiba ou auprès du roi du Maroc, puisque le Maroc et la Tunisie sont devenus, c'est des pays devenus indépendants en mars 56. Donc à ce moment-là, et les délégués du CICR allaient dans ces deux pays pour apporter une aide logistique aux réfugiés qui étaient livrés à eux-mêmes. Hein. Certains avaient des petites huttes en branchage où ils vivaient dans des grottes, etc. Et là, comme dans les camps de regroupement, comme dans les prisons, comme
dans les camps d'internement,
que faisaient les délégués ? Bien évidemment, ils arrivaient soit avec des médicaments, avec des couvertures, avec des aides matérielles. Et ils ont profité pour prendre des photos.
Alors justement, on va parler de la partie photo qui est importante, abondante. Hein, dans le livre, toutes les pages, il y a des photos du quotidien, de la vie dans les camps. C'est des photos de la Croix-Rouge, qui appartiennent à la Croix-Rouge ?
Absolument. Presque, quasiment, je crois que 98% des photos appartiennent au CICR, oui. Et alors, pourquoi ?
Et lorsque vous avez travaillé, vous, en tant qu'historienne, on vous a confié d'aller voir toutes ces photos, parce qu'elles sont des photos inédites, j'imagine, elles ne sont jamais sorties des archives de la Croix-Rouge.
Absolument. C'est pour la première fois, donc, le Comité international de la Croix-Rouge a confié la publication, en tout cas, a autorisé la publication de ces photos, j'allais dire sans limite. Ce n'était pas une ou deux. On voulait en fait toutes les photos. Et là, je vois, Samia, vous regardez, vous êtes en train de feuilleter le livre et vous êtes tombée sur une page où on voit une maman avec ses enfants. Et en fait, cette photo n'était pas autorisée. Et donc, on a eu des autorisations spéciales pour cet ouvrage. Donc, vous allez trouver des photos, effectivement, qui ne sont pas connues du public.
Et vous, dans votre recherche en tant qu'historienne, justement, sur toute l'histoire de ce CICR, là, donc, qui va aller dans les camps, il y a la Croix-Rouge française aussi qui va s'y rendre dans les camps.
Alors, absolument. Alors,
la Croix-Rouge internationale, CICR, et la Croix-Rouge française aussi.
Alors, c'est bien
ça rapidement parce ça, qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Parce que comme ça, je vais vous parler rapidement des camps de regroupement. Parce que vous avez vu, j'ai parlé des camps d'internement, des camps de réfugiés, mais pas des camps de regroupement qui étaient à l'intérieur du territoire algérien. Donc là, il y en avait énormément. Et le CICR a fait quelques visites de ces camps, mais ça a été toujours accompagné par la Croix-Rouge française. Voilà. Et la Croix-Rouge française circulait aussi avec des camions qui étaient des camions médicaux où il y avait de quoi soigner les petits bobos, hein, parce qu'on ne va pas faire de la chirurgie non plus dans les camps. Mais c'était des infirmières de l'armée qui circulaient pour apporter des soins, disons, de base dans les camps. Et là, le CICR arrivait parfois donc de Genève, parce qu'il venait donc de Suisse, avec des médicaments, avec du lait notamment. Le fameux lait Nestlé, le lait suisse, arrivait par le biais donc des délégués du CICR.
Merci Fatima Besnassi-Lankou, on aurait longtemps encore à parler avec vous, passionnément comme vous le faites, sur ces pages d'histoire de l'Algérie, dans ce premier livre dont nous avons parlé, je le rappelle, qui est « Ils ont dit non à l'abandon des harkis, désobéir pour sauver », un livre coécrit avec notre invité ce matin, Ouria Deloum Bentayeb, et ce livre que vous avez, vous Fatima Besnassi-Lankou, écrit, est largement illustré par des photos de la Croix-Rouge, réfugiés et détenus de la guerre d'Algérie, qui vient de paraître aux éditions de l'Atelier. Merci à vous, mesdames, d'être venues ce dimanche matin à Beurre FM. On se retrouve la semaine prochaine pour un rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous. Au revoir à tous.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches, de 9h à 10h, et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.